Un jour,
un livre, un auteur. Philippe nous dit bonjour.
Bonjour Philippe Hubercœur.
Et Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors
bonjour
aujourd'hui, Philippe. On va parler de quelque chose qui intéressera peut-être tout le monde, c'est le travail. Et on a l'auteur que nous allons avoir aujourd'hui et qui est venu sur
qui attendait dehors là, il y a quelques minutes sur le canapé qu'on a reçu. On lui a offert un café.
D'une grande timidité.
Comme moi.
Alors attendez.
D'une grande timidité comme moi, Diego Arrabal, précisez-le.
Alors il est peut-être qu'il n'est pas timide, mais par contre, il arrive à condenser ses propos.
À condenser.
C'est-à-dire qu'en fait, il va au but.
Alors que moi, c'est vrai je boudigue, comme disait mon grand-père dans les langues. Vous savez, le boudiguer, ça vient du cours d'eau, le boudigo, qui est un cours d'eau qui sinue énormément avant d'arriver à l'océan. Et donc, à patois-landais, on emploie ce terme de boudiguer. Donc, vous direz que je boudigue.
Voilà. Alors, vous voyez blague à part. On va parler du travail et d'un très joli. Alors, je sais pas comment. Est-ce que c'est un roman, un essai,
un recueil. C'est un recueil de nouvelles. Voilà, on va dire comme ça. Puis après,
on va le présenter. C'est un recueil de nouvelles. Alors,
on va parler du travail.
Ouais, on va parler du travail. Alors, ça va intéresser quand même tout le monde. Alors, on précise il y a quelques semaines de cela, s'est déroulée donc la manifestation Le Mai du Livre et que c'était également un sujet qui a été à l'honneur, donc effectivement, du Mai du Livre. Donc on voit même aujourd'hui que dans les manifestations littéraires, le travail est en train de prendre sa place parce que des auteurs écrivent dessus. Alors, on a des auteurs qui écrivent des essais. Là, on est sur un recueil de nouvelles. Et donc, on va le voir à travers la quatrième de couve, les éditions Arcane 17, qui publient donc ce recueil de nouvelles, qui est une maison d'édition donc Tarbèze. Diego Arrabal, après, effectivement, nous en dira un mot, a publié une nouvelle qui s'appelle, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Des nouvelles du travail ». Alors, c'est ça, c'est un peu le jeu de mots, c'est recueil de nouvelles, des nouvelles du travail. C'est pas uniquement que des nouvelles, c'est au jeu sur la polysémie du terme, c'est des nouvelles du travail, mais c'est aussi des nouvelles du travail à travers l'interview, on va voir, de différentes personnes. Je vais lire la quatrième de couve, et puis après, on va venir vers notre invité du jour, Diego Arrabal.
Voilà. Bonjour à tout le monde.
Bonjour Diego. Alors, des nouvelles du travail, Diego Arrabal. Je lis la quatrième de couve. Alors que nos sociétés se sont enfoncées depuis presque 40 ans dans une crise profonde qui déstabilise la question du travail, il a semblé essentiel à Arcane 17 de rencontrer des femmes et des hommes qui ont contribué, contribuent et contribueront à la création de richesses pour les interroger sur leur vécu au travail. Ces entretiens retranscrits et mis en scène sous la forme de petites nouvelles, donne toute sa place à la parole de ceux qu'on oublie trop souvent d'écouter, d'entendre, de prendre en compte. L'auteur, Diego Arrabal, a répondu à la proposition de la Ligue de l'enseignement 65, qui s'occupe, soit en passant aussi,
du livre.
Ouais. Donc lui a proposé une résidence d'auteur sur ce thème. Alors on rappelle que Diego, au-delà d'être un chroniqueur radio, est également écrivain, qu'il est également universitaire à la retraite, mais pas vraiment à la retraite, parce que quand on lit les nouvelles du travail, on est à la lisière quand même, entre le recueil de nouvelles et le travail universitaire. On sent qu'entre les deux, son cœur a balancé. Alors là, on est très loin du polar.
Quoique...
On est vraiment très loin du polar. On sent qu'il est revenu effectivement à cela. Alors, Diego Arrabal, vous allez d'abord nous parler des éditions Arcane 17 par rapport à des nouvelles du travail pour nous expliquer un peu qui sont les éditions Arcane 17 et pourquoi les éditions Arcane 17 ont décidé de s'intéresser aux nouvelles du travail et au travail. On vous écoute.
Alors, les éditions Arcane 17, c'est une maison d'édition Tarbèze qui fête cette année ses 15 ans et qui donc a démarré avec du polar, avec Pierre Domangès, que nous avons déjà reçu sur cette antenne.
Voilà, qui est le responsable.
Qui est le responsable de la GESP.
Haut personnage bigourdant.
Haut en couleur, oui.
Et haut en couleur.
Et puis, ensuite, d'autres auteurs sont venus abondé, qui a démarré un peu sur le polar et qui ensuite a beaucoup travaillé sur des essais politiques et qui a ouvert plusieurs collections, notamment la collection Polar Rouge, dans laquelle j'ai l'honneur de pouvoir publier mes romans. Et alors, qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui a amené Arcane 17 à s'intéresser à ça?
Parce qu'il y a beaucoup de polar quand même, il y a beaucoup de polar chez Arcane 17.
Oui, on a,
et là, c'est vrai que
on a une collection.
Voilà, il y a une collection et là, c'est vrai qu'on est à des années-lumière, effectivement.
Alors, on est très loin du polar.
Du polar. C'est pourquoi ce choix ?
Alors, pourquoi ce choix ? Mais parce que Arcane 17, c'est aussi des essais politiques. C'est aussi des témoignages. Hein. Nous avons une collection qui s'appelle Franc-Tireur, qui publie des témoignages d'hommes politiques, des témoignages sur le travail. Il y avait eu, en 2010, je crois, ou 2008, au moment où les éditions Arcane 17 ont été créées, peu de temps après, un livre de photographie sur la fermeture de l'Arsenal. Par exemple. Et donc, ça fait partie de la fibre et de l'ADN d'Arcane 17 de s'intéresser à ce phénomène de société.
Hein, alors là on était quand même sur le local, parce que bon, l'Arsenal, c'est quand même l'histoire locale de l'industrie des Hautes-Pyrénées.
Oui.
Alors que là, même si ce sont des gens du local, vous parlez du travail de manière générale. C'est-à-dire que ce recueil de nouvelles que vous publiez, on peut le lire n'importe où dans le monde.
Alors, j'espère qu'on peut le lire n'importe où dans le monde. Ça veut dire que la spécificité, et ce que moi j'ai voulu faire, parce que vous parliez tout à l'heure de la dimension scientifique et je dirais universitaire, moi ce qui m'intéressait, c'était en fait de travailler sur la parole des personnes. D'ailleurs, la résidence d'auteur à laquelle j'ai répondu, et donc qui a donné naissance à ce livre, était bien une résidence d'auteur dans laquelle l'intérêt, c'est d'aller au contact des personnes, de les faire parler, et au maximum de conserver la spontanéité de ce qu'ils disent. Donc moi, par rapport à un travail universitaire, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de me poser en sociologue et d'analyser le travail en tant que sociologue, mais de me poser en, je dirais, enquêteur qui va aller sur le terrain, prendre des nouvelles. Donc ça, c'est ce que vous disiez sur l'ambiguïté du titre. Prendre des nouvelles du travail dont aujourd'hui on a l'impression qu'une partie des gens le rejettent, que des gens ne veulent pas travailler, etc., et que l'autre partie souffre au travail. Et en fait, il y a quelque chose entre les deux. Et donc moi, j'ai rencontré à peu près une quarantaine de personnes, dizaines d'élèves d'un lycée agricole. J'ai rencontré des salariés, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, notamment dans l'agroalimentaire.
Vous avez même rencontré une salariée des sanctuaires.
J'ai rencontré des salariés des sanctuaires, voilà, qui se sont exprimés sur leur travail, etc. Et puis, j'ai rencontré aussi des retraités. C'est-à-dire que l'idée de base, c'était en fait de recueillir la parole de personnes à travers des entretiens semi-directifs. Donc c'est un terme pour dire qu'en fait il y avait 4 ou 5 questions générales et où les personnes s'exprimaient comme elles le voulaient.
Des questions ouvertes, pas des questions fermées.
C'était des questions totalement ouvertes.
Des questions ouvertes.
Ouais. Et les personnes s'exprimaient comme elles voulaient, éventuellement dans le recueil qui était fait, puisque j'enregistrais les rencontres. S'il y avait besoin, je pouvais donner un petit coup de pouce pour que la personne creuse quelque chose qui m'avait semblé intéressant dans ce qu'elle disait, et donc la ramener sur quelque chose qui, moi, pouvait me sembler intéressant et où elle était passée un peu rapidement. Donc ça a été le premier travail. Ensuite, il y a eu un gros travail de transcription. En gros, j'ai récupéré pas loin d'une vingtaine d'heures d'entretien. donc c'est énorme, hein, 20 heures d'entretien. Il y a eu donc la transcription de ces entretiens, puis ensuite il y a eu un travail que j'ai fait autour des thématiques qui émergeaient. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais pas d'a priori, contrairement à un travail de sociologue. Un sociologue, c'est quelqu'un qui démarre un travail de recherche sur une hypothèse et qui va s'appuyer sur les entretiens qu'il va mener avec des salariés, si c'est un sociologue du travail, qui va s'appuyer sur les propos des personnes pour valider ou infirmer son hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens disent n'a d'intérêt pour le sociologue, indépendamment de ce qu'ils disent, hein, mais il n'a d'intérêt que par rapport à sa propre recherche et aux hypothèses qu'il peut émettre. Elles vont être validées, tant mieux. Elles vont être invalidées, bah, tant mieux aussi. On sait que bah, ce qu'on pensait était faux et on a construit du savoir. Là, mon idée était différente. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de quoi parlent les gens lorsqu'ils parlent du travail. Par exemple, moi, j'ai été frappé du fait que, alors que je m'attendais à ce que ce soit un élément important, dans le sens où il prend de la place. La question salariale est une question qui est restée vraiment en arrière-plan. C'est-à-dire que la plupart des personnes que j'ai interrogées, indépendamment des élèves, parce qu'eux, effectivement, ils n'allaient pas aborder la question salariale, ou du moins très peu, mais tous les salariés, ou même les petits chefs d'entreprise, la dimension salariale était une dimension, je ne dis pas totalement écartée, mais elle était secondaire par rapport à ce qui fait leur plaisir, leur envie, leur sens qu'ils donnaient au travail. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment les gens, non pas se sentaient au travail, mais comment ils pensaient la transmission du travail. Donc, ces différents éléments qui ont émergé dans les entretiens, moi, je les ai scénarisés. C'est-à-dire que j'ai pris ces entretiens, j'ai sélectionné des passages, mais il est clair que démarrer une histoire juste avec la parole des gens, c'est difficile. Il faut créer un contexte. Donc moi, mon seul travail, ça a été de sélectionner des passages qui me semblaient intéressants et ensuite de les scénariser, c'est-à-dire de les introduire dans un contexte qui rend naturel ce que les gens expriment. Alors, avec un pari, c'était le pari de l'oralité. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas voulu réécrire et modifier ce que les personnes avaient dit pour que ça soit littéraire. En fait, ce livre, il a d'intérêt dans ce qui est dit par les personnes que si nous le lisons à haute voix. C'est-à-dire que nous en faisons le dialogue qui était le dialogue initial. Et ça, ça
vous êtes un peu
comprendre.
Un porteur de voix.
Là, je suis un porteur de voix. Pour moi, ce recueil de nouvelles, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je n'ai fait que le mettre en forme. Ce qui est écrit dedans, c'est ce qu'en disent les personnes que j'ai rencontrées, la quarantaine de personnes que j'ai rencontrées. Élèves qui parlent de leur avenir, qui parlent de l'intérêt de la formation par rapport à ce qu'ils projettent. Il y en a certains, d'ailleurs, on le voit.
Ou des doutes, des espoirs.
Et on voit que
il y a certains témoignages où il y a beaucoup de doutes. C'est voilà. De dire, je fais quelque chose, on sent, par exemple, il y a une des interviews d'une personne que vous faites qui dit ben, qu'en gros, son corps parle parce qu'elle sent qu'elle fait des études qui ne lui plaisent pas. Mmh. Elle commence à être absente en cours. Elle dit, je commence à avoir des douleurs, etc. Tout, et elle se rend compte que, alors même qu'elle n'est pas encore dans le monde du travail. Mmh. Et qu'elle a 43 ou 44 ans à faire. Et donc derrière, on sent cette inquiétude hein, de cette personne qui se dit « Mais déjà que là, mon corps se met à parler, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis dans un travail dans lequel je ne m'épanouis pas ?»
Oui.
C'est l'épanouissement qui est quand même au centre. Et alors, je voulais lire cette préface qu'il y a de René Trus, qui est vraiment intéressante parce qu'il pose des questions. Je trouve Diego Rabal qui sont au cœur.
Rappelez qui est René Trus.
Alors René Trus, vous faites bien, Philippe Subercase. C'est le président de la Ligue de l'Enseignement, donc qui s'occupe notamment du Mai du Livre, hein, qui était une manifestation littéraire qui a eu lieu. Donc,
et qu'on a reçu longuement sur Radio Présence.
Voilà, ouais. Exactement.
Que nous avons reçu il y a quelques semaines pour nous parler du Mai du Livre.
Alors, je trouve qu'il fait une préface qui est vraiment intéressante, où il pose effectivement des questions qui déterminent le périmètre dans lequel vous intervenez. Je lis. Comment se fait-il que le travail cause aujourd'hui un tel désenchantement? A-t-on dépossédé le monde du travail de son expérience, de ses savoirs transformateurs, de l'intérêt qu'il pouvait prendre à l'avenir de ses entreprises ? La rentabilité, la concurrence effrénée ont-elles découragé définitivement l'ardeur et cette logique de l'honneur ? Le travail en général aurait-il perdu cette valeur civilisatrice ? Valeur civilisatrice. À la Ligue de l'enseignement, qui rassemble beaucoup de salariés au sein des associations, ces problèmes taraudent la vie associative. Nous avons voulu savoir, en imaginant une résidence d'écriture avec l'écrivain Diego Arrabal, que nous recevons en ce moment sur le plateau de Radio Présence, qui d'emblée a accepté de partir à la rencontre de multiples personnes exerçant des métiers différents. Il était déjà rompu à cette pratique puisqu'il avait dirigé des étudiants dans une quête de ce genre. La publication des interviews, leur synthèse est significative des questions fondamentales qui traversent la population, notamment la jeunesse, qui a beaucoup de mal à se fixer. Pourtant, à la lecture des témoignages, les attentes sur l'épanouissement au travail restent fortes. On ne désespère pas, malgré les conditions difficiles et préoccupantes, de la nécessité du lien social et de la reconnaissance de la participation à une société plus égalitaire. On n'a aucune intention de se débarrasser du désir primordial de l'humain. Voilà, ça je trouve que cette préface, elle dresse bien ce que vous faites. Puis alors après, il y a les témoignages, hein, je vais en lire quelques-uns après, qui sont quand même... Il y en a qui sont très émouvants.
Tout à fait.
Alors moi, ça me touche d'autant plus que vous avez des interviews qui ont été faites du lycée agricole et forestier.
Oui.
Donc de
Vic en Bigorre.
De Vic en Bigorre. Oui. Pour moi qui travaille à la mutualité sociale agricole, dans mon travail, on suit les lycées agricoles. Donc on fait des formations pour ces élèves. Donc je les rencontre. Et ça a fait écho, ça, chez moi.
Mm.
Parce que ce que vous écrivez, c'est ce que j'entends. Et quand vous dites à un moment donné... je suis un porteur de voix, ben c'est exactement ça, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Oui, tout à l'heure, voilà. Ce que vous décriviez, c'était le témoignage d'Amandine, qui est un des premiers témoignages dans une des nouvelles, et où elle parle de sa difficulté, de son envie de faire autre chose et de comment elle transforme en symptômes physiques, son mal-être, qu'elle pourrait dériver autrement, mais qu'elle transforme. Et ça fait vraiment écho à pas mal de recherches actuelles en sociologie du travail sur le mal-être au travail.
Sur la souffrance au travail, sur ce que ça génère. Travail, oui. Et puis bon, le nombre de personnes que l'on voit effectivement aujourd'hui. Alors moi, je vois dans mon boulot, je suis conseiller en prévention des risques professionnels. On a une cellule de prévention du mal-être, nous, aujourd'hui. Pour les salariés en production, par exemple, aujourd'hui, on intervient beaucoup, notamment pour les élevages avicoles. Vous avez vu que la crise aviaire s'est relancée. Mmh. Donc, on a des personnes qui, du jour au lendemain, ont des bâtiments qu'ils ne peuvent plus remplir et qui sont aspirés par le vide. Car un vide sanitaire dure 15 jours, puis d'un seul coup, le vide sanitaire, il peut durer 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et puis, d'un seul coup, il n'y a plus rien à faire. Il y a cette vacuité.
Mmh.
Là, on n'est pas forcément sur ce type d'entretien. Alors, je vais en lire un au hasard. Je suis tombé page 26. Un salarié qui s'appelle Philippe, mm-hmm. qui a 52 ans, technicien audio-vidéo en radio associative. Je le lis, c'est dans le... Papa était jardinier à la ville de Lourdes, donc plutôt dehors, et les espaces verts, et maman était aide-soignante à l'hôpital. Moi, j'aurais bien aimé qu'un de mes enfants pousse vers le journalisme. Ouais, le journalisme. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y a l'envie de prendre le relais ou faire la même chose que moi. Une, elle part pour devenir professeur des écoles. L'autre part pour devenir ergothérapeute. Mon fils aimerait plutôt être ingénieur dans tout ce qui est étude des pièces mécaniques. Voilà. Et puis la dernière, elle est plutôt vers un truc artistique. Donc voilà, j'arrive pas à donner le virus. Ce que vous relevez aussi, c'est la transmission.
Mmh. Oui, là, vous lisez un des témoignages qui constitue une des nouvelles qui s'appelle Héritage et où l'idée de base, à travers ce qu'on dit les personnes, c'est de montrer comment se fait ou ne se fait pas l'héritage, comment un salarié projette ou pas, je dirais, un déterminisme social. Parce qu'à une époque, bon, c'est un peu, je veux dire, les premiers travaux de Pierre Bourdieu, sur le déterminisme social et la reproduction, on se rend compte qu'aujourd'hui...
C'était les héritiers, c'est ça ? C'était les héritiers, le titre du... C'est ça ?
Non, c'était dans la reproduction.
C'était dans la reproduction.
Les héritiers, c'était...
C'était ensuite, oui.
C'était ensuite, et il parlait plutôt, là, en termes d'héritiers, sur la prédestination dans les classes dirigeantes.
Dans les classes dirigeantes.
En revanche, dans l'autre, il parlait plutôt de la façon dont il y a un déterminisme qui empêche les personnes, les enfants, de notamment des classes les plus défavorisées et les plus populaires, de quitter leur système et de se retrouver dans une reproduction sociale. Donc, il va ensuite développer dans les héritiers, dans lesquels il fait l'analyse justement de l'autre classe sociale.
Alors, je vais lire un autre témoignage qui m'a beaucoup, que je trouve touchant. C'est Séverine, 40 ans, assistante de vie, animatrice en EHPAD. Alors là aussi, vous voyez, vous allez voir, elle dit que c'est un métier que je voulais juste pas faire. Disons d'abord que c'est un métier que je voulais juste pas faire. C'est-à-dire, tous les matins, vous arrivez, putain, j'ai pas envie de faire ce métier. Et j'y suis. Voilà, ma mère était médico-psychologique dans une grosse association, aussi dans les Hautes-Pyrénées, et elle travaillait en poste. Donc elle n'était pas là le week-end, et elle n'était pas là les fériés, et plein de moments. Et je lui ai toujours dit que je ne voulais pas faire son métier à la con. Son métier à la con. Voilà, elle m'a amené régulièrement avec elle au travail. En fait, j'ai rencontré des gens merveilleux, et ben voilà. C'est sans doute mon éducation aussi, faisant que je viens d'une famille souche. Donc il y a plusieurs générations qui vivent au sein de la même maison, et voilà. C'est d'en discuter avec tous ces gens, et c'est ce que j'ai besoin, je pense. Et voilà, je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Voilà. Alors j'ai dit, je le ferai pas, je le ferai jamais, parce que c'était 3 points de suspension. Ça nous a privé avec mon frère de temps de partage avec notre mère. Quoi, puisqu'elle était au travail. Et à côté de ça, j'avais un père agriculteur, donc qui était, lui, plus souvent là. Mais qui aussi, à certains moments, il n'était pas forcément là. Par contre, effectivement... On a des valeurs de travail. Des valeurs de travail. J'ai un enfant, je le pousserai juste à faire le métier qu'il aime. Voilà. Et je ne lui dépeindrai pas les aspects négatifs parce que chaque travail, je pense qu'il faut le faire. Oui, à un moment donné, il va nous prendre du temps. Oui, ça va empiéter sur notre quotidien. Quel que soit le métier que l'on a et que l'on a choisi. Mais je lui dirai juste de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Parce que c'est lui qui se lèvera tous les matins. Rire, entre parenthèses. Je pense que si un métier, on l'a choisi, je pense qu'il peut y avoir de beaux métiers. Moi, j'aime beaucoup cette façon de présenter le travail. Alors, il y a des choses quand même, c'est les valeurs. C'est-à-dire les valeurs, on sent bien que c'est des racines, que c'est vraiment la boussole des gens pour aller travailler. Et c'est vrai que vous faites émerger tout un tas de témoignages comme ça, de souffrance aussi, mais d'espoir.
Oui, mais... Moi, ce qui me frappe là dans ce que dit, alors je me souviens plus de son prénom, mais c'est une assistante de vie qui s'occupe de personnes âgées et dont la mère faisait le même travail. Et en fait, elle montre bien comment, à un moment donné, il y a une réticence quand on est adolescent et quand on est jeune adulte à faire quelque chose parce qu'on voit bien les côtés négatifs. Et puis tout d'un coup, c'est quelqu'un qui explique très bien comment on peut être happé par l'intérêt et par quelque chose d'important qui s'appelle l'utilité sociale. Et qui est une, alors on en dira peut-être un mot tout à l'heure, c'est une des composantes du sens du travail d'après Thomas Coutreau, que nous avons reçu au Mai du Livre le 1er juin. C'est-à-dire que dans la dimension du travail, il y a effectivement la dimension de rémunération, mais on se rend compte qu'elle est, je ne dis pas secondaire, parce que c'est important de gagner sa vie et de pouvoir vivre de son travail, mais qui n'est pas l'élément constitutif.
C'est le sens.
Voilà.
C'est
le sens. Voilà. Le sens, c'est pas l'argent. Le sens, il est ailleurs. Il est dans cette capacité à être utile aux autres, dans ce qu'on peut changer dans le monde. Et le fait de s'occuper de personnes âgées, c'est aussi de changer les choses, c'est-à-dire d'empêcher, alors c'est à la fois d'être utile pour elles, mais c'est aussi de changer les choses, c'est-à-dire d'empêcher que des personnes soient isolées, que des personnes soient infantilisées, etc. Et il y a un autre moment un peu plus loin qui, moi, m'a frappé par rapport à des questions très modernes autour de la souffrance au travail et tout ça, et qui est autour de la façon dont on manage aujourd'hui les entreprises et même les services publics, de façon assez unanime, même si je ne l'ai gardé que pour une ou deux des témoins, de façon très très forte, on sent la réticence et la crainte qu'ont ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, que la pression d'organisation du travail qu'elles subissent et qui devient de plus en plus contraignante, que cette pression les fasse basculer dans un phénomène de violence de violence et de maltraitance, alors que leur job, c'est d'être bien traitant. Elles ont peur que la pression ne les fasse devenir des personnes maltraitantes. Et ça, je trouve que c'est ça montre bien qu'au-delà du travail, etc., il y a quelque chose de très profond en termes d'éthique. Et ça montre bien aussi la mutation aujourd'hui du travail qui devient quelque chose qui est totalement régi par des contraintes et qui fait qu'en fait le travail aujourd'hui meurt. Alors, il meurt dans ce que peut dire par exemple Christophe Dejour, qui est un sociologue du travail et qui est médecin et psychologue, et qui disait en fait il y a d'une part le travail vivant, là où celui qui travaille a de l'initiative, s'engage. Et puis, il y a un travail dans lequel tout est organisé de l'extérieur. C'est du taylorisme qui pouvait fonctionner dans l'industrie, mais qui s'applique à tout. Et ce taylorisme, en fait, il vide de sa substance le travail et il transforme le travail en travail mort. C'est-à-dire que, en fait, on peut changer un humain par une machine.
Le travail et le travail en question avec vous, Diego Rabal. On va s'arrêter là, mais je pense qu'il est intéressant qu'on puisse continuer à parler de ce livre et des témoignages que vous avez eus et approfondir un petit peu ce thème. Je vous propose de faire une pause et puis on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler du travail.
Mais ce sera avec grand plaisir.
C'est rare qu'on ait autant de plaisir à parler du travail. Oui, donc on revient la semaine prochaine pour parler du travail. On va venir travailler pour parler du travail.
Voilà. On rappelle le titre de l'ouvrage, c'est
Des nouvelles du travail. Des éditions Arcane 17, bien entendu, de Philippe Subercase.
Diego Rabal.
L'incontournable Diego Rabal.
Voilà. À la
semaine prochaine, les amis. Merci.